Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue. L'actualité économique du jour. Comment vivent les chefs d'entreprise la période que nous traversons? Alors, l'UDP a fait un sondage auprès, a sondé le Rassemblement National. Bon, ils sont pas très, très convaincus, les patrons de l'UDP, hein. C'est les artisans commerçants, notamment. Et puis, le Méti n'est pas non plus très optimiste. C'est le syndicat des entreprises de taille intermédiaire. On va faire quelques petits focus dans cette émission. Être le plus précis possible sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un SMIC à 1600 euros net? Qu'est-ce que ça veut dire qu'exonérer de cotisations pendant 5 ans, les hausses de salaire jusqu'à 10% dans la limite de 3 SMIC? Redire également un mot de la réforme de l'assurance chômage. On parlera de la France. Est-ce qu'elle a perdu son immunité sur la dette? En tout cas, hier, ce qui était assez extraordinaire, c'est de voir les spreads, les écarts de taux entre la France et l'Allemagne, qui paisiblement se resserraient au fil des annonces de désistement. Plus la perspective d'une absence de majorité absolue se précisait dans la journée, plus l'écart de taux entre la France et l'Allemagne baissait. Et on est pratiquement revenu à 70 points de base. Je vous donnerai quelques-uns des mots assez durs que l'on peut lire dans la presse allemande, qui visiblement se passionne pour ce qui se passe en France. Et puis, on parlera de la modification du bonus écologique en France. Vous savez, l'aide d'État qui est versée pour l'achat d'une voiture électrique, qui a été clairement recentrée sur le « Made in Europe » par Emmanuel Macron, eh bien, on voit que l'effet est radical, car depuis la modification des contours de ce bonus écologique, les ventes en France de voitures électriques fabriquées en Chine, pas que de voitures chinoises, de voitures électriques fabriquées en Chine, eh bien, elles se sont tout simplement effondrées. Le principal mouvement concernant la Dacia Spring made in Shanghai, même si elle est d'inspiration Renault, bien évidemment. Bonjour Patrick, vous êtes quatre aujourd'hui, ravi de vous recevoir. Patrick Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Directeur général opération Dolnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division revenu travail de l'OCDE. Et puis vous avez succédé à Gilles Berset à la tête du groupe d'experts sur le SMIC. On parlera du SMIC à 1600 euros net. Et vous êtes également membre du cercle des économistes, comme Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Professeur au CNAM, et vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France, dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Laurent Vronsky, bonjour.
Bonjour à tous.
Directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Voilà ce qui ressort de la petite consultation des membres de l'UDP, vous savez qui est l'un des trois syndicats patronaux. Ils regrettent qu'il n'y ait plus de perspective sur un texte concernant la simplification. Ils sont dubitatifs sur cette fameuse promesse d'exonération de cotisations pendant 5 ans sur les hausses de salaire, car c'est sur les hausses de salaire qui concernent tous les salariés, les hausses de salaire générales. Et puis ils s'inquiètent sur la capacité à faire appel à des travailleurs étrangers, qu'ils redoutent une pénurie de main-d'œuvre. Bon. Comment vous vivez la période, M. Vronsky?
Oh bah écoutez, tout va bien. Beaucoup de sérénité.
Est-ce que tout va bien, justement? Est-ce que tout va bien?
Alors, de toute façon, quelque part, le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous, on n'a pas le choix. Et en plus, comme on guide nos équipes derrière nous et qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui et que les équipes se tournent vers nous, je veux dire qu'on doit essayer de trouver le positif dans le pessimisme. Alors, je ne suis pas en train de vous dire tout va bien, Madame la Marquise, mais c'est vraiment le regard que vous portez. Ce qui est sûr, c'est que l'économie et les agents économiques ont horreur de l'incertitude. Le risque se mesure, l'incertitude ne se mesure pas. Et là, on est en pleine incertitude. Donc le résultat a été immédiat. Vous avez énormément de projets qui ont été mis sur pause. Et ça, c'est du concret. Parce que les gens ne savent pas ce qui va se passer. Donc, je suis vraiment, je suis ravi qu'une grosse partie de nos affaires se tiennent en dehors de la France. Parce que les gens qui sont uniquement sur le marché français, à mon avis, ça ne va pas être facile pour eux. Et nous avons des fournisseurs pour qui c'est le cas, et qui aujourd'hui connaissent des difficultés, parce qu'il y a des projets qui ont été mis sur pause. Ça n'a pas été supprimé, ça a été déplacé. Mais jusqu'à quand, on n'en sait rien.
C'est ce qui s'est produit aussi, vous savez, sur les acquéreurs immobiliers. Les téléphones ont cessé de sonner le 10 juin dans les agences immobilières. Alors les acquéreurs étrangers ont totalement disparu du paysage. Même question pour Patrick
Bertrand. Très proche de Laurent en termes de réponse. Une dirigeante d'entreprise a horreur de l'instabilité.
Oui, ça
on sait. Une raison qui est évidente, c'est qu'on investit tous les jours dans des nouveaux projets. Et donc on ne sait pas, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé, ou c'est un peu péjoratif, mais quel va être le cadre réglementaire, juridique et fiscal. Donc la réaction, c'est d'être positif, d'aller de l'avant, mais c'est de mettre en pause les gros projets d'investissement. Et il y a encore quelques semaines, il y avait un show qui s'appelle Choose France, et il y a eu plein d'articles qui mettaient en évidence le fait que la France avait retrouvé une attractivité absolument formidable. Très clairement, tout le monde se met en pause et lève les crayons. Donc c'est ça le sujet. Il faut vite sortir de cette situation pour qu'on y voit clair et qu'on puisse se projeter. Il y a un autre point quand même que je voudrais rajouter, je pense que Laurent le ressent, c'est, mais rappelez-vous, pendant le Covid, un des points de stabilité du pays, ça a été les entreprises. Et l'image de l'entreprise est excellente. Et donc, nous avons aussi un rôle à jouer en tant que dirigeants, etc., pour stabiliser, justement, dans ce maelstrom, pour stabiliser nos citoyens, nos concitoyens, et faire en sorte que on soit dans une dynamique à peu près positive. Et donc, je pense qu'on va de nouveau voir que c'est bien l'entreprise qui est au cœur, pas le seul, mais qui est au cœur du bon fonctionnement d'une société et d'un pays.
Je suis pas sûr qu'il y ait un Choose Friends 2025. Hein. C'est pas gagné, ça.
Nous verrons. Et avec qui ?
Votre réaction, Christian, avant de partir sur le SMIC, notamment votre réaction, Christian Saint-Etienne, là, maintenant, presque quelques jours du second tour, et puis après l'annonce de cette fameuse, presque un mois après l'annonce de la dissolution.
Je suis moins inquiet que la semaine dernière, paradoxalement.
Vous êtes comme les marchés lundi, quand vous avez fait un ouf de soulagement à 20h.
Non, c'est pas pour cette...
Mettez le micro plus près, Christian.
Oui, c'est pas pour cette raison-là. Bon, on va certainement, probablement, vers un RN qui va peser, mais à 220-230 députés. Donc, la question centrale, maintenant, c'est les équilibres de ce qui n'est pas RN. Donc, 580 moins 230, il reste 350 députés. Il faut une majorité de 290. Est-ce qu'LFI, la question centrale en fait de dimanche, c'est est-ce qu'LFI est dans la configuration du gouvernement qui se mettrait possiblement en place la semaine prochaine. Ça, c'est une question centrale. Pourquoi ? Parce que la France a déjà le record des prélèvements obligatoires en Europe et le record de la dépense publique en Europe. Si LFI passe, c'est un choc sur la
personne n'y croit.
Les finances publiques. Non, mais
personne ne croit à LFI à Matignon.
Non, mais je parle pas de Matignon. D'être en capacité d'influencer de manière significative l'orientation des mesures qui seront prises par un gouvernement entre guillemets dont on parle dit d'union nationale.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc ça c'est un point important. Ce que je retiens surtout de cette campagne, on fera le bilan la semaine prochaine voire au-delà parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec un président qui prend des décisions à l'emporte-pièce. Il pourrait démissionner lundi aussi. On n'est pas à l'abri de tout ce qui est concevable. Mais ce serait pas forcément le pire.
Je sais pas, je sais plus.
C'est pas forcément l'extrême droite qui passe non plus.
Non.
Parce que les Français auront purgé leur colère aux législatives et ils pourraient faire un choix très différent la prochaine fois. Mais je termine rapidement sur le fait, et puis on y reviendra, sur le fait que pendant toute cette campagne, on n'a pas abordé le seul sujet clé en France, c'est-à-dire comment on accentue une politique de l'offre qui permette d'augmenter le taux d'emploi, car seul l'augmentation du taux d'emploi permettra de réduire la dépense sociale et possiblement de réduire le déficit public. Donc, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est la qualité de
la réflexion ou
de la réflexion et surtout aucun des grands acteurs de la politique française actuellement ne met le doigt sur les sujets fondamentaux.
Hier je vous citais Jean-Marc Vittori justement et cette chronique dans les Échos qui rappelle juste d'où vient le pouvoir d'achat et le revenu. Gilles Berset aujourd'hui dans les Échos rappelle qu'un pays avec un solde commercial négatif, c'est un pays dont l'offre est inférieure à la demande. Pourtant partout les programmes misent sur la politique de la demande, aucun programme n'évoque la question de la productivité et d'ailleurs la plupart proposent de travailler moins. Voilà, c'est exactement la résonance de ce que vous venez de dire. Stéphane Garcillo, vous êtes à la tête du groupe d'experts sur le SMIC. Quand vous entendez qu'on propose un SMIC augmenté de 14% à 1600 euros net, comment vous lisez une telle proposition ?
Alors, le SMIC, en soi, c'est pas forcément l'ennemi de l'emploi. Hein. Ça dépend vraiment du niveau du SMIC par rapport à la productivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle les
évolutions... C'est déjà complexe, ce que vous avez dit, par rapport au débat d'opinion.
Bien sûr, bien
sûr. Ça dépend du niveau du SMIC par rapport à la productivité.
Bien sûr. En français, ça veut dire qu'il faut que ça rapporte plus que ce que ça coûte.
Exactement. Voilà, merci.
Ah bon ?
Exactement.
Ah bon ?
Et donc, c'est vrai que dans des pays, par exemple, où le salaire minimum était très faible par rapport à la productivité des autres salaires, par exemple à l'Espagne, il y a eu des hausses importantes.
Énormes, oui, absolument.
Énormes, qui ont eu des effets sur l'emploi, mais relativement négatifs, mais relativement mesurés. L'Allemagne a fait un SMIC, mais elle l'a fait assez calé sur ce que faisaient déjà les branches. Et donc, c'est relativement en ligne avec la productivité. La France, depuis 20 ans, a un SMIC qui est très élevé par rapport aux autres salaires. On est environ à 60% du salaire médian, voire plus maintenant. On est autour de 62, 63, voire même plus aujourd'hui.
Je fais une incise en moyenne dans les stats OCDE, c'est 50%, non ?
Voilà, en moyenne 50%.
On est du déjà, salaire médian, oui.
Voilà, donc on est déjà très élevé par rapport aux autres salaires, ce qui signifie probablement qu'on est très élevé par rapport à la productivité des emplois concernés. Donc toute hausse du SMIC doit être progressive, bien mesurée, et il faut éviter les à-coups vraiment très importants, parce que là, du coup, il y a un risque important. On le sait quand on a évalué l'effet de la hausse du coût du travail sur l'emploi en France. Au niveau du SMIC, il reste très sensible. Très, très sensible. Et donc, c'est la raison pour laquelle...
Le coût du travail au niveau du SMIC influe énormément sur il y a du boulot ou il n'y a pas de boulot.
Voilà, exactement. Et donc, quand on fait un saut de 200 euros, ce qui fait une hausse de 14% sur le coût du travail, c'est un choc très important en termes réels. C'est très différent des hausses qui ont eu lieu récemment, qui ne faisaient que rattraper l'inflation. Donc, c'est des chocs nominaux. Il n'y avait pas de hausse du salaire minimum réel. Donc, il n'a pas bougé. En revanche, si on fait un saut d'un seul coup de 200 euros, là, c'est un choc réel pour les entreprises. Il n'est pas évident qu'elles seront capables et en mesure de passer ce choc sur les prix. Donc, ce sera un vrai... Voilà. Et donc, ce sera un vrai choc parce que, tout simplement, dans beaucoup d'emplois, elles sont très contraintes, elles ont de la concurrence. Et donc, ce sera un choc réel. Et là, les risques pour l'emploi sont plus importants. Ce qu'il faut dire aussi, et ce que les gens n'ont pas en tête, c'est que non seulement il y a un risque sur l'emploi qui peut concerner plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais ça coûte très cher. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les allègements de cotisations qui aujourd'hui concernent non seulement les emplois au SMIC, mais aussi beaucoup d'emplois, puisque c'est lissé jusqu'à 3,5 fois le SMIC, sont indexés sur le niveau du SMIC. Quand vous montez le niveau du SMIC, vous augmentez l'enveloppe des allègements. Et donc la facture va se monter à probablement 20 milliards d'euros pour cette mesure.
C'est sur un an, 20 milliards d'euros ?
Pour l'État.
20 milliards d'euros de cotisations en moins pour le financement de la protection sociale.
Et donc compensé par l'État, sur le budget de l'État. Puisque c'est
l'État qui va faire un chèque de 20 milliards.
Oui, j'ai compris.
Et unique, il y a les allègements, mais il y a aussi les autres prestations sociales qui sont calées sur le SMIC. La prime d'activité, par exemple. Les allocations logement. Et donc l'enveloppe va... Ça coûte très très cher. À titre de comparaison, il y a d'autres manières d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés au SMIC de manière importante, sans peser sur l'emploi et qui coûte moins cher. Je pense à la prime d'activité.
Ben oui.
La prime d'activité aujourd'hui au niveau du SMIC, c'est 200 euros. Si vous la doublez
pour une personne seule,
et que vous faites 200 euros de plus, l'équivalent de la hausse du SMIC, d'accord, et vous doublez l'enveloppe de la prime d'activité, le coût pour les finances publiques, c'est 10 milliards, la moitié. Et là, vous impactez vraiment la pauvreté, parce que c'est beaucoup mieux ciblé. La hausse du SMIC, elle impactera très peu la pauvreté.
Il n'y a pas d'effet secondaire.
Très, très peu la pauvreté.
Non, mais j'entends ce que vous dites. Juste un point avant de vous faire...
Il faut être extrêmement vigilant.
Non, ce que dit Stéphane.
Il faut être extrêmement vigilant.
J'ai parfaitement compris ce qui a été expliqué.
Parce que personne n'en parle, en plus.
On est là pour ça. Mais en plus, il faut rappeler une chose. Il faut rappeler une chose, c'est que j'ai regardé par rapport à ce qui avait été décidé en 1980, où il y avait eu un fort coup de pouce sur le SMIC. Il y avait à l'époque beaucoup d'inflation. Si on défalque de l'inflation, le coup de pouce qui serait proposé là serait deux fois plus supérieur à celui de 1980. Oui. Ouais, non, mais j'ai bien compris que la prime. Alors certains vous diront, oui, mais la prime d'activité, c'est au moins le SMIC, c'est du dur, c'est du salaire, c'est du sûr. Voilà. La prime d'activité, on peut sur un choix politique décider qu'elle va dans un sens, qu'elle va dans un autre, et qu'en cas de coup dur, eh bien finalement elle est revue à la baisse, une forme de doute.
Non mais c'est du dur pour ceux qui resteront en emploi, les autres d'accord. Ils seront virés, donc ça sera pas du dur.
Réaction, pas
non,
de
oui, très rapide.
Allez, droit au but sur ce que vient de dire Stéphane.
Il y a aussi un autre moyen, c'est les accords qui ont été passés, mais je crois que les décrets viennent de sortir 6 mois après. C'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. L'accord qui a été passé pour le partage de la valeur, c'est la mise en place d'accords d'intérêt à l'intérieur de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc ça aussi, c'est un moyen d'intéresser en monnaie trébuchante si l'entreprise fonctionne. Et juste pour rebondir sur ce que vous évoquez, moi je pense quand même que ça générera une augmentation des prix. Et augmentation des prix, ça veut dire d'une certaine façon que le gain de pouvoir d'achat par rapport à cette augmentation du SMIC sera réduite. Et puis, on le sait, relance de la consommation, compte tenu de notre déficit extérieur, c'est relance de la consommation de produits importés. Donc on a un peu un carré magique à l'envers, quoi, négatif, un cercle vicieux.
C'est le problème de ces mesures qui, dès qu'on commence à les décortiquer dans les moindres détails, révèlent évidemment des failles souvent assez bien. Oui, c'est systémique.
C'est systémique.
C'est systémique, absolument. Ce qu'on vient de décrire, Laurent Wonski.
Ah bah, je vais compléter les.
Moi, j'ai entendu Guillaume Richard de WeCare vous dire que lui, qui embauche énormément de gens aussi dans les services à la personne. Pour lui, c'est un quasi suicide.
C'est un tsunami. Ouais.
C'est un tsunami, voilà.
Absolument. Nous on n'est pas concernés par le sujet parce que comme on est sur des métiers très spécifiques, il n'y a personne qui est au SMIC.
Dans le micro, mettez plus en face de vous.
Par contre, je voudrais justement compléter vos propos par un mythe qui est que c'est pas grave, on va augmenter les coûts, mais on va tout reporter sur les prix de vente. Alors ça, on a eu un exercice réel. Il y a pas plus tard que qu'il y a un an ou deux, avec les pénuries de matières premières et l'inflation à deux chiffres, voire à trois chiffres sur certains produits, sur l'énergie. La plupart des entreprises ont été incapables de répercuter ces hausses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une contraction des marges, voire des entreprises qui ont fini au tapis. Donc, c'est ça, je dirais, la réalité. On ne peut pas augmenter les coûts d'un côté et les répercuter au niveau des prix de l'autre. Et comme tu l'as parfaitement expliqué, je veux dire qu'il y a aussi un deuxième mythe qui est de dire, si on donne plus de pouvoir d'achat, tout le monde va se trouver mieux, puisqu'en clair, les gens vont se précipiter dans les magasins et les entreprises. Alors déjà, je doute fort que les gens se précipitent pour acheter nos compresseurs, ça c'est une chose, mais je pense qu'ils vont aussi beaucoup se précipiter pour aller acheter des produits qui ne sont pas fabriqués par les entreprises françaises.
Et vous voyez, en dépit de toutes les explications qu'on peut apporter, Christian Saint-Étienne, je sais que dire « je vous promets un prix français de l'électricité au moment où justement le prix européen est inférieur, je vous mets le SMIC à 1600 », je suis persuadé que intuitivement la majorité considère que c'est la bonne idée. Même si on lui explique ce qu'on vient de l'expliquer dans le détail, je pense que voilà.
Il y a une solution qui est proposée par Stéphane.
Oui, qui est jouée sur la prime d'activité.
À laquelle j'adhère évidemment, je pensais à la même chose. Même 100 euros sur la prime d'activité, ça c'est du bon cash, parce que ça n'a pas de conséquences négatives ni pour les entreprises, ni pour la hausse des prix. Je reviens sur un point, parce qu'il se trouve que j'ai. Vous dites LFI, il y a un programme du nouveau Front Populaire, et le nouveau Front Populaire sera un élément clé de la majorité d'Union nationale. J'ai regardé ce programme. Il propose un choc sur la demande de 6 points. Je suis allé regarder le choc de 1981. En 1981, le choc avec l'arrivée du programme de François Mitterrand a été de 1,5 point de PIB. C'est 4 fois le choc de 1981. Qu'est-ce qui s'est passé après 1981 ? 3 dévaluations dans les 18 mois qui ont suivi. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer. Premier point. Deuxième point, en 1981, la France était encore un grand pays industriel. La production industrielle, c'était encore 25 points de PIB. Aujourd'hui, c'est 10. Donc, on est désindustrialisé, on ne peut plus dévaluer et on a un énorme déficit extérieur. Si vous faites un choc de demande sur un pays désindustrialisé par ailleurs, a un énorme déficit extérieur, c'est un bain de sang. Donc, la question centrale, c'est que vous avez le RN qui n'a jamais été très clair sur ce qu'il ferait effectivement au pouvoir. Et vous avez le nouveau Front Populaire qui, lui, est extrêmement clair avec des mesures comme celles qu'on propose. Donc la question centrale, bien sûr, il y aura un retour au réel. Mais le retour au réel, tel qu'il est intervenu en Grèce en 2010, il a été d'une violence phénoménale. Donc la question, pour moi, c'est à un moment donné, mais c'est ce que vous disiez en introduction, Nicolas, c'est effectivement les quelques articles dans les Échos, mais c'est ce que prône le cercle depuis longtemps, cercle des économistes, c'est comment on relance l'offre productive. Parce que ce que nos camarades disaient tout à l'heure, l'économie française, elle est à 80% une économie de services. Si tu peux pas compenser par la productivité dans les services. Donc si tu augmentes les coûts de 14%, les prix augmentent de 14%. Or, en face, les consommateurs ne pourront pas payer. Donc c'est une folie totale. Donc c'est très important ce qu'on dit ce matin, c'est l'augmentation du SMIC est un coup de poignard dans l'économie française. Il existe une solution pour répondre au problème de pouvoir d'achat, c'est de mettre par exemple 100 euros au 1er septembre sur la prime d'activité. Valeur. Il faut que ça se répète. Ouais. Il faut que ceux qui pourraient arriver au pouvoir en prennent conscience.
Je partage. Et on constate quand même, on l'a vu avec ce qu'on a improprement parlé, la prime Macron, qui est la prime de partage de la valeur.
Oui, mais c'est
on
pas
voit...
pareil.
Oui. Non, on est bien d'accord. Parce que je voulais revenir sur un point essentiel. On voit que quand l'augmentation de salaire ne se traduit pas par des surcharges et un coût pour l'entreprise considérable, elle devient effective, parce qu'elle a bien marché, cette prime de partage de la valeur. Et donc, très clairement, laissez-nous faire les dirigeants d'entreprise, on saura payer correctement nos collaborateurs et collaboratrices, mais il ne faut pas que, quand le collaborateur et collaboratrice reçoit 100, ça coûte 240. Voilà, donc là, il y a un point clé, quand même, qui est, alors je ne me place pas au regard du sujet des dépenses publiques et du déficit, parce qu'effectivement ça fait moins de rentrées de cotisations, mais il y a une réalité, c'est que là on peut générer du pouvoir d'achat. Donc prime de partage de la valeur, le partage de la valeur avec l'intéressement ou des augmentations jusqu'à un certain montant qui seraient exonérées de charges sociales, bah, croyez-moi, on en injecte du pouvoir d'achat sans alors, pour autant qu'on ait créé un effet systémique.
Un mot pour Laurent et on marque une pause, on a 40 secondes.
Je vais compléter tes propos, parce que d'aucuns diraient oui, mais attendez, là, on peut pas croire ce que vous dites, vous êtes un patron. Je vais juste rappeler que dans beaucoup de secteurs, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée, il y a pénurie de compétences et pénurie de main-d'œuvre.
Exactement.
Donc, le bon Dieu sera le juge des âmes pour savoir si on est sincère dans nos intentions, mais on est obligé de le faire, sinon nos talents partent.
Exactement.
On marque une pause. Stéphane Cassio, mais vraiment en amont, est-ce que vous avez communiqué sur ce que vous venez de nous expliquer depuis les annonces des programmes et tout ça
Pas vraiment, non.
Bah, c'était l'occasion.
Voilà.
Il était temps de venir.
Canal historique.
Voilà,
Radio Londres de l'économie.
J'aimerais qu'on revienne sur les augmentations de salaire avec l'exonération, parce que c'est pas forcément plus vertueux.
Non, mais j'y viens.
Au regard de la dette publique,
C'est le sujet.
C'est le teasing.
C'est le teasing, on évoquera la réforme de l'assurance chômage aussi.
Quel est le plus.
Allez, hop, on y va, c'est parti, à tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Patrick Bertrand, directeur général opération d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas. Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, membre du Cercle des économistes et président du groupe d'experts sur le SMIC. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes. Auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux coalitions Alpha. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue et secrétaire général de Croissance Plus. Il y a Eric qui m'écrit « Pourriez-vous faire réagir vos intervenants sur la solution qui consisterait à conditionner les primes et les aides au fait de n'acheter que des produits français ? L'argent serait crédité sur une carte spéciale et cette carte spéciale ne pourrait être utilisée que sur des produits made in France. » Ça vous... Laurent, allez-y.
On a plein de choses. Écoutez, cher monsieur, moi je suis tout à fait d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'il va falloir reconstruire des usines qui produisent plus de 60% de nos composants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul fabricant français pour plus de 60% des composants que nous utilisons.
Oui, donc il ne peut pas y avoir... Oui, d'accord.
Alors, il y a une variante de ça, parce que c'est complètement idiot. C'est une variante qui serait effectivement créditée une carte qui ne pourrait être dépensée que sur l'alimentaire et l'équipement des enfants, par exemple. Oui. Et là, de facto, ça sera 80% français. Mais effectivement, on ne peut pas le faire déjurer. C'est-à-dire, on ne peut pas aller vérifier les étiquettes pour savoir si ça a été fabriqué en France ou pas. Ça serait illégal, contraire à toutes les règles européennes. Mais
il y avait aussi celui qui... Enfin,
Ça a été envisagé. Il y a des variantes qui ont été envisagées, notamment pour les allocations familiales, qui auraient été versées en partie sous forme d'une carte qui ne pourrait être dépensée que pour acheter des produits pour les enfants.
La proposition, cette fois-ci, qui émane du RN, Stéphane Carcillo, cette promesse, alors celle-là a été maintenue, il y en a certaines qui ont un peu bougé dans tous les sens, par exemple la TVA zéro sur les produits de première nécessité n'existe plus dans le programme, mais par contre, l'exonération de cotisations pendant 5 ans pour les entreprises qui accordent des augmentations de salaire à tout le monde, général, jusqu'à 10% de hausse, dans la limite de 3 SMIC. Votre lecture de cette proposition, qui est l'une des propositions phares sur le pouvoir d'achat justement proposé par le Rassemblement National.
Alors, la première réaction, c'est que ça coûte très très cher aux finances publiques, hein, puisque c'est une mesure, si c'est effectivement utilisé par les entreprises qu'elles s'en saisissent, ça peut coûter vraiment extrêmement cher pendant 5 ans, ces augmentations de salaire, sachant que l'État va compenser le manque à gagner pour les caisses de sécurité sociale. Donc c'est une mesure extrêmement coûteuse.
C'est du pouvoir d'achat payé par la dette.
Voilà. Fait. Alors, est-ce que ça va augmenter en net les revenus?
Voilà.
C'est le sujet. En fait, le principal problème de cette mesure, c'est que ça ne va très probablement pas augmenter les revenus nets par rapport au contrefactuel qui est l'absence de cette mesure, à cause des effets d'aubaine qui vont être massifs. Les entreprises vont de toute façon, celles qui vont bénéficier de l'aide sont celles qui vont de toute façon augmenter les salaires pour tous les salariés, car elles en ont les moyens en termes de productivité.
On ne dit pas que ça augmente le net, on dit que c'est une incitation pour un chef d'entreprise à accorder des hausses de salaire là où peut-être il n'en accorderait pas.
Mais justement, le principal driver des hausses de salaire, c'est la productivité. D'accord ? Les chefs d'entreprise ne vont pas augmenter les salaires en absence de hausse de la productivité juste pour pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale sur une partie de leur augmentation. Donc ceux qui vont, les entreprises qui vont utiliser ce dispositif sont celles qui ont des.
Qui l'auraient fait de toute façon.
Qui ont des gains de productivité, qui l'auraient fait de toute façon. Et du coup, par rapport au contrefactuel qui est l'absence de cette exonération, eh bien les revenus n'augmenteront quasiment pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une très légère augmentation du revenu disponible pour les ménages bénéficiaires parce qu'on va se partager l'exonération entre entreprises et salariés. On va se partager cette manne. Donc il y aura une très petite augmentation. Mais est-ce que ça va générer des hausses de salaire qui n'auraient pas eu lieu et donc en l'absence de la mesure, moi je n'y crois absolument pas. Donc au final c'est une mesure qui me semble finalement un coup d'épée dans l'eau qui n'aura pas d'effet sur les augmentations de salaire en réel, qui est très très mal ciblée puisqu'elle ne va pas cibler du tout les ménages qui en ont particulièrement besoin et qui sera extrêmement coûteuse.
C'est encore assez limpide ce que vous me dites là, évidemment.
C'est très limpide. Un coup d'épée dans l'eau, ce qui est un coup d'épée dans l'eau inopérant, en fait.
Bon, oui, en n'oubliant pas que, alors je comprends, mais c'est pas une aggravation du déficit public, c'est une non-rentrée attendu de la
provision. Oui, c'est à l'arrivée, c'est après.
On est d'accord,
pareil,
mais c'est pas. Non, non, mais quand on explique coût pour la sphère publique, c'est coût, on a l'impression que c'est une dépense immédiate,
non,
c'est-à-dire qu'on augmente
la
dette. C'est non rentrée. Mais de facto, en solde.
De facto, l'État va devoir compenser la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est l'État qui va verser les cotisations sociales qui n'auront pas été versées.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas éternellement bidouiller les cotisations sociales dans tous les sens pour faire manquer le pouvoir d'achat. Il y a un moment. On change le modèle social radicalement.
Alors, moi, j'ai une autre proposition à la Carcio. Si on veut augmenter le pouvoir d'achat, les Espagnols sont en train de réduire la durée du travail en Espagne en étapes. De combien à combien ? De 40 heures à 38 heures, avec en direction de 37h30. Ce qui veut dire que dans l'Europe du Sud, c'est le 37h30 qui s'impose. Donc moi, je proposerais éventuellement, si j'étais candidat, de porter la durée du travail à 37 heures par semaine, payer 37 heures. Et là, c'est du pouvoir d'achat en contrepartie d'une production. Parce que on parle de productivité, c'est la qualité du travail qui est fait, mais encore en amont, il y a la notion fondamentale de production. Si on te verse de l'argent sans contrepartie de production, c'est une destruction d'activité économique. Je propose de s'aligner sur les Espagnols et d'aller vers 37h30, puisque c'est l'objectif qu'ils se sont donné à l'horizon de 3 ans. Eux, ils sont en descente vers 37h30 et nous serions en montée vers 37h, 37h30. Et ça, c'est du vrai pouvoir d'achat.
Bon, j'ai une auditrice qui considère qu'il n'y a pas de contradicteur à notre discussion autour du plateau là, qu'on est, bon. On essaye juste de décrypter les trucs et les effets. Les Grecs vont travailler 6 jours par semaine dans certains secteurs.
Alors, sur la remarque, il n'y a pas de contradicteur. Essentiellement, ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est de l'arithmétique, en fait. C'est pas de la politique. Tout ce qu'on dit depuis ce matin, c'est purement et simplement l'arithmétique. Alors, on peut avoir des contradicteurs à l'arithmétique, mais on change de monde.
C'est là où l'économie est toujours un peu clinique, et c'est là où certains vous diront « Oui, mais c'est sympa, votre arithmétique, mais après, il y a des gens qui y vivent ou qui
vivent
pas.
Eh bien, on est en train de proposer des solutions, voilà. augmenter la durée du travail voilà. ou augmenter la prime d'activité.
Encore
on n'est pas
fois,
en train de dire
voilà.
qu'il n'y a pas de pauvreté.
Encore une fois, c'est
on
le travail.
On est en train de dire il y a des solutions qui sont raisonnables et d'autres qui sont déraisonnables.
C'est ce que dit Gilles Berset ce matin, c'est le travail qui fera effectivement les gains de productivité, pas de pouvoir d'achat sans production. Hier, encore une fois, Jean-Marc Vittori disait, si on veut des revenus et du pouvoir d'achat, il faut des facteurs de production qui sont le capital, le travail, et c'est la réunion de ces facteurs et de l'efficacité de cette réunion qui produit de la productivité.
Mais le plus inquiétant, je termine sur ça, il y a une seconde, c'est que 70% des Français pensent que le pouvoir d'achat est déconnecté de la production. C'est ça qui est terrifiant sur le moyen terme.
Beaucoup de gens pensent
alors
que le pouvoir d'achat viendra
le choix politique. En Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, 70% des Allemands, des Hollandais et des Belges pensent que le pouvoir d'achat dépend de la production. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos écoles pour que plus des deux tiers de la population pensent que le pouvoir d'achat est déconnecté de la production. C'est ça le point clé.
Allez-y, Laurent Vonsky.
Sujet essentiel.
Ce qui est intéressant justement sur les deux thèmes qu'on vient d'aborder, c'est que une fois de plus, l'économie, je veux dire, c'est pas de l'économie pousse-bouton, hein, et c'est un thème qui revient inlassablement. Et alors moi, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que vous dites. Vous avez raison, il faudrait éduquer les élites, mais seulement, je veux dire que ça fait maintenant 20 ou 30 ans qu'on les éduque, mais il y a
non, c'est pas les élites, c'est le
mais il y a quand même, c'est si vous voulez, il y a énormément d'organisations professionnelles auxquelles j'appartiens qui ont essayé d'évangéliser, d'expliquer l'économie, d'expliquer tout
ça. Je crois plus au coup de la pédagogie.
Non, je n'y crois plus non plus. Je pense qu'il faut continuer à le faire, mais il y a toujours ce réflexe pavlovien, et c'est très français, de penser qu'on peut piloter l'économie à coup de pouce-bouton. Et ce que vous venez d'expliquer très bien et très clairement, c'est qu'on est dans une économie de marché. Et que dans une économie de marché, ce qui prime, c'est le marché. Et donc, de dire, on va raser gratis et on va augmenter tout le monde et tout va bien se passer, c'est juste complètement faux. C'est-à-dire que le driver principal pour une entreprise, c'est le carnet de commandes. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de débouchés, si vous n'avez pas de clients qui sont prêts à payer vos produits ou vos services, vous pouvez décider toutes les mesures économique du monde, rien ne se passera. Et là, c'est sans doute ce qui explique l'incertitude. Quand on examine les deux programmes économiques, et pour certains, si on peut appeler ça un programme économique qui nous est proposé, on a vraiment un catalogue de recettes de cuisine presse-bouton. Et je pense que c'est ce qui crée énormément d'incertitude au niveau des agents économiques. Donc ce matin, le but, c'était pas de faire, je dirais, un débat animé, c'était essayer de décoder et d'expliquer aux auditeurs que des choses qui apparemment sont simples et apparemment de bon sens, peuvent avoir des conséquences qui sont précisément l'inverse de l'origine de ces mesures.
Et ce qu'on est en train de dire, moi j'aime beaucoup la phrase du leader du Labour qui fait sa campagne en UK, il dit il y a un besoin d'espoir, quoi. Mais d'un espoir réaliste.
Ordinaire,
et d'un espoir réaliste. Et c'est ce que nous essayons de faire au cours de ces émissions ou ailleurs. Je veux dire, on est tous embarqués dans le fait qu'il y a des problèmes fondamentaux dans notre pays à traiter, qui sont pas uniquement des problèmes macro, mais qui sont aussi des problèmes de société. Et c'était intéressant dans votre émission d'hier ou avant-hier, la corrélation qui avait été faite entre le vote du RN et le nombre de kilomètres qu'il fallait faire pour aller à un centre de soins.
Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est remarquable. Cette image est absolument remarquable. Parce que les gens ont besoin d'un espoir et d'un espoir réaliste. Et notre travail, c'est d'essayer de montrer que, de façon réaliste, on peut aller de l'avant. Et si je peux prendre deux secondes encore, je sais que j'étais un peu trop long, mais c'est quand même assez frappant aussi que ces programmes sont un peu des catalogues presse-bouton comme Laurent l'évoquait. Rien sur l'innovation et quasiment rien, le désert, sur comment améliorer l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques. Et encore, rien, et toujours rien. Ça fait 20 ans que ça dure. On nous explique que si, que ça, que etc. Absolument rien sur l'analyse et l'audit des dépenses publiques qui sont les plus élevées, comme le rappelait Christian tout à l'heure, de l'OCDE.
Il y avait un maire sur RMC hier d'une commune de 300 âmes qui, pour la première fois, avait été majoritaire à voter RN. Il a voulu comprendre. Donc, 300 âmes, on peut quand même rencontrer les gens dans la rue.
Il connaît, oui.
Et ben, le principal moteur, ça a été une réaction à la fermeture du centre des impôts.
Oui, absolument.
Alors, il y a le centre des impôts qui a fermé.
Mais Nicolas, les chefs d'entreprise que nous sommes, et qui, enfin, deux d'entre nous en tout cas, nous on est dans la concrétude du matin au soir. Alors parfois on est un petit peu snobé par les élites qui pensent qu'on est un petit peu bas de plafond parce que nous on gère des problèmes qui sont au ras des pâquerettes. Mais nous savons que si on ne gère pas ces problèmes, je veux dire, c'est la révolution dans les boîtes.
Exactement.
Donc j'invite certains à venir faire quelques stages dans nos entreprises, et particulièrement les PME. Donc Hervor offre deux stages à deux grands théoriciens de la théorie pour voir que ce qui préoccupe les gens, c'est pas forcément le sexe des anges, et que c'est super important.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'on évoquait, vous évoquiez Christian Saint-Thiel, le niveau éducatif, sauf que ces programmes, ils sont quand même conçus par des gens qui ont un minimum de niveau de formation.
Exactement.
Et l'absence du mot innovation, l'absence du mot investissement.
Exactement.
L'absence de la notion de productivité comme seul et unique moteur du pouvoir d'achat. Alors, soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle.
Ou du dogmatisme.
Bon. Non, c'est...
Non, mais...
Christian, oui.
Il faut... Parce que ça fait 40 ans que je réfléchis à ça. Je fais beaucoup de conférences, on me dit, mais si c'est si simple, ainsi de suite. J'en suis progressivement arrivé à me dire qu'il y a deux façons de comprendre les choses dans la vie. Là et là.
Donc la tête
et le vide. On peut tout imaginer. Et puis après, c'est ce que tu fais avec tes tripes quand tu es face au réel. Et donc, quand on fait un programme, j'en ai fait aussi, hein, ça fait un moment que je conseille un certain nombre d'hommes politiques, quand on fait un programme, je les vois bien ce qu'ils demandent. C'est des mesures qui vont attirer des voix. Donc, on l'a vu, le mot productivité, production, innovation, si c'est pas dans le débat, c'est parce que ça n'attire pas de voix selon ceux qui se présentent.
Bien sûr.
Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait... Patrick, Bertrand, je mets juste en garde sur un point, parce que malheureusement j'ai un certain âge et je connais mon pays. Faire naître un espoir irréaliste qui se fracasse, la prochaine fois,
c'est dramatique.
Ça sera le RN qui passe au premier tour.
Exactement.
Donc attention à l'espoir irréaliste qui se fracasse. Voilà. Ça, c'est extrêmement dangereux sur le plan des équilibres sociologiques et politiques internes. Donc certes, par rapport à votre auditrice, ça peut paraître effectivement, pour reprendre le mot de Laurent, pédestre et ras de terre, mais attention aux rêves qui se fracassent. Il faut se souvenir que la Grèce, c'est quand même le temple de la raison, de l'intelligence dans l'histoire intellectuelle mondiale. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé dans les 15 dernières années. Donc, il ne faut pas penser que nous sommes à l'écart de tout ce qui se...
J'aurais aimé entendre la phrase du leader du Labour sur besoin d'espoir, mais espoir réaliste.
Il y a Bob, lui aussi,
dans la campagne.
Il n'y a pas assez de contradicteurs aujourd'hui dans l'émission. Voilà. Ce n'est pas une science exacte, l'économie, dit-il.
C'est pas une science exacte, mais il y a des principes de base.
J'essaye de faire avancer au moins. D'abord, c'est pas un ring ici. On est plus là pour essayer de comprendre des mécanismes. Stéphane Carcillo, je serai face à Gabriel Attal ce soir. Je vais discuter avec lui de ce qu'il y a ou pas d'ailleurs en matière.
Il y a des bonnes relations, Nicolas. Vous avez des bonnes relations.
Il sera sur BFM TV. Ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas d'ailleurs dans le programme. En tout cas, il y a un truc qui vient de disparaître. C'est la réforme de l'assurance chômage. À la surprise, un peu générale, tard dimanche, pof. Le décret est publié, évidemment, parce qu'il fallait techniquement prolonger les règles actuelles, car sinon elles s'éteignaient lundi à l'aube. Mais tous les éléments de réforme, quatrième réforme, disparaissent. Est-ce que vous comprenez que ce soit mis sur pause? Enfin, on nous dit sur pause, mais bon, on voit bien que pour l'instant, c'est reporté sine die. Est-ce qu'il fallait faire ça?
Alors, cette réforme de l'assurance chômage, d'abord, c'est la dernière salve, puisque les précédentes sont déjà en place, hein, notamment celles qui ont créé la contracyclicité, hein. Une assurance chômage généreuse quand ça va mal et plus resserrée, moins généreuse quand l'économie est très tendue, quand le marché du travail est très tendu, ça reste en place. La réforme qui devait intervenir renforçait cette contracyclicité, puisqu'on passait de 18 mois à 15 mois de durée maximale, voir si le taux de chômage passait sous les 6,5%, on passait à 12 mois.
Mais là, il est un peu à la hausse, le taux de chômage, justement.
Oui, très légèrement, le marché du travail reste très tendu.
D'accord, mais...
La France a créé 2,5 millions d'emplois depuis 2017. Le taux d'emploi a augmenté 3,5%. Les entreprises ont du mal à recruter. Donc le marché du travail reste pour la France extrêmement tendu, même si notre taux de chômage a l'air d'être au plancher à 7,5%, 7,3%. On a un marché du travail qui reste très tendu et donc très porteur. Donc c'était le moment, je pense, de continuer cette réforme avec cette architecture vertueuse de la contracyclicité, de préserver la protection quand ça va mal et de renforcer les incitations incitation à accepter des contrats de travail lorsque l'économie va bien, c'était la bonne chose à faire. De ce point de vue, c'est vraiment dommage de revenir en arrière. C'est aussi très problématique de ne pas revoir les règles d'indemnisation, notamment pour les demandeurs d'emploi plus âgés, parce que du coup, il y a maintenant un décalage entre la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites qui a porté à 64 ans l'âge normal de départ en retraite, et les règles de l'assurance chômage qui permettent assez rapidement de rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de pré-retraite chômage, parce qu'il y a une prolongation de l'indemnisation du chômage jusqu'à arriver au taux plein, qui intervient aujourd'hui à l'âge de 59 ans et demi, 60 ans, et donc c'est beaucoup trop tôt par rapport à l'âge de départ en retraite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Malheureusement, c'était prévu dans ce décret et c'est pas fait, et ça coupe un peu l'herbe sous le pied de la réforme des retraites, dont on sait qu'elle est extrêmement importante pour expliquer l'augmentation du taux d'emploi en France. Le taux d'emploi en France, il a augmenté essentiellement pour deux raisons. Principalement parce que les seniors sont plus souvent en emploi et restent en emploi. Et aussi parce que les jeunes sont plus souvent en emploi, parce qu'on a fait beaucoup de réformes de l'apprentissage et un certain nombre de réformes qui ont favorisé le retour en emploi des jeunes. Donc de ce point de vue, c'est vraiment dommage de mettre ça sur pause. On aurait pu se dire qu'effectivement, on aurait pu prendre cette mesure et voir si il y avait une majorité pour revenir dessus dans une semaine, ce qui n'est pas du tout évident. Et sachant qu'en plus, il me semble que d'un point de vue politique, je ne suis pas totalement, non, c'est pas mon domaine.
Ça ne va rien rapporter.
Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce soit un gain politique, parce qu'on se dit, mais ça favorisera les reports de voix des électeurs de gauche sur Ensemble. Or, les électeurs d'Ensemble sont plutôt très déçus qu'on ne revienne pas sur cette mesure. Donc le gain n'est pas totalement évident.
Ça semble plus une décision de Macron que d'Attal.
Visiblement, sur l'histoire de la réforme de l'assurance chômage, là où Emmanuel Macron, à un moment, avait dit que finalement, on allait peut-être attendre un peu et remettre les partenaires sociaux dans le deal, tout d'un coup, c'était Gabriel Attal qui l'avait démenti deux jours après. Emmanuel Macron avait dit qu'il l'avait appris sur l'AFP. Donc, j'arrive plus, si vous voulez, à savoir. Alors là, mes auditeurs se déchaînent. J'en ai un qui me dit carrément, c'est pas de l'information, vous êtes en train d'imposer une seule et même vision. Le fait qu'il n'y ait pas de contradicteur, vous voyez, que j'ai des réactions qui sont vives. Il fallait continuer la réforme de l'assurance chômage, Christian Saint-Etienne.
Alors,
parce que elle était dure, cette réforme, quand même, objectivement.
Oui.
Elle était dure à un moment où le marché est très, certes tendu, mais avec un taux de chômage un petit peu...
Elle était dure. La moyenne de la durée d'indemnisation en Europe, c'est 12 mois et demi, d'accord. Il faut avoir contribué à l'assurance chômage en moyenne un an. Donc en passant à 15 mois, on continuait à être nettement au-dessus des autres pays. Donc elle était dure par rapport à la situation française qui était exceptionnelle. Elle n'était pas dure quand on rapporte à la moyenne de ce que font les autres pays dans lesquels il y a quand même une protection qui est importante. Et donc tout est relatif.
Ouais, mais non,
et objectivement, les demandeurs d'emploi dans des situations de tension du marché du travail sont sensibles aux paramètres de l'assurance chômage. C'est pas de la polémique, c'est simplement ce que disent les études, les dizaines d'études sur ce sujet. Donc c'est tout simplement les travaux scientifiques sur le sujet montrent que dès lors que le marché du travail crée des emplois, les demandeurs d'emploi répondent au durcissement des règles en acceptant plus souvent les contrats de travail qu'on leur propose.
Certains diront qu'ils acceptent des boulots de moins bonne qualité.
Oui,
c'est toujours la critique qui est opposée.
Eh bien, en l'occurrence, ça a été étudié en France. À l'inverse, dès lors d'une réforme qui avait fait passer dans les années 2000 de 7 mois à 15 mois la durée d'indemnisation.
Il y avait donc amélioré.
C'est
l'IPP qui avait fait l'étude.
Non, c'était Thomas Le Barbanchon.
Ah bon,
c'était, je me trompe. Et donc, il y a une étude qui a été réalisée. Et cette augmentation, ce doublement de la durée, n'a ni augmenté les salaires des emplois qui ont été repris quand on avait 15 mois au lieu de 7 mois, et n'a pas non plus augmenté la durée des contrats du tout. Donc, on peut se poser la question, c'est une question qui est très très débattue. Les éléments dont on dispose aujourd'hui, c'est que grosso modo, dès lors qu'on est autour de 10-12 mois d'indemnisation, on n'impacte pas la qualité des emplois lorsqu'on baisse la durée d'indemnisation.
Christian Saint-Etienne.
Oui, sur ce point... Une autre façon de le dire, c'est que ce décret ne touchait pas les chômeurs pauvres, elle touchait les chômeurs en capacité de travailler, qui arbitrent, sont capables d'arbitrer entre les règles du chômage et le retour au travail. Donc, c'était c'était une incitation au retour à l'emploi et on en attendait 100 000 travailleurs de plus, c'est-à-dire une incitation très forte à l'augmentation du taux d'emploi. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, pour moi, c'est que ça n'avait de sens de manière globale que dans le cadre d'une accentuation de la politique de réindustrialisation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, on a évoqué, on a parlé ni production, ni innovation, ni productivité dans la campagne, mais on n'a pas non plus parlé d'accélération de la réindustrialisation. Or, si on veut du pouvoir d'achat, parce qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en a pas. Nous sommes, malgré ce que certains auditeurs peuvent penser, tous les quatre d'accord pour que le pouvoir d'achat augmente, si vous réserve que la productivité et la production augmentent également. Mais les seuls vrais emplois qui payent, pour parler en termes de campagne électorale, ce sont les emplois de l'industrie. Donc, je regrette que, effectivement, le Premier ministre mette ce décret sur pause, mais je regrette surtout qu'on ne parle plus d'un effort colossal de réindustrialisation, qui est le seul moyen de sortir de la France de la trappe à faible croissance dans laquelle nous sommes. Le seul chiffre clé qu'il faut avoir à l'esprit, depuis 20 ans, la croissance en France tourne à 1,15%. On ne peut pas avoir distribution de pouvoir d'achat avec un 1% de croissance si on ne double pas le taux de croissance de l'économie, ce qui suppose une augmentation de la productivité. On est mort. Collectivement, on ne va pas s'en sortir. Donc, ces sujets centraux, le fait qu'ils ne soient pas dans la campagne électorale, pour moi, c'est extrêmement frustrant.
Je crains qu'il ne fasse pas voter. Boris m'écrit « La vérité des chiffres, ça ne se relativise pas ». C'est une réaction par rapport au précédent tweet d'auditeur que j'ai reçu. Dernier sujet, 3 minutes 20, le bonus écolo modifié par Emmanuel Macron pour acheter une voiture électrique en France, donc l'aide que l'État vous donne pour aller vous payer une voiture électrique qui coûte cher, eh bien on l'a un peu bidouillé pour en faire un truc made in Europe, réservé made in Europe, histoire d'exclure les voitures importées du reste du monde, et principalement les voitures importées de Chine. C'est juste époustouflant les résultats, car vraiment, effectivement, les parts de marché des véhicules électriques importés de Chine, pas chinois, importés de Chine, y compris donc les Français fabriqués là-bas, eh bien se sont tout simplement effondrés entre janvier et avril. Donc c'était une bonne mesure.
Oui, c'est une très bonne mesure. Oui. Ça montre que justement, quand on prend en compte les données de marché, on obtient des résultats. Puisqu'on veut passer à la voiture électrique, mais le problème de la production, il n'est pas seulement français, il est devenu européen.
Vous êtes européen.
L'Europe est en train de disparaître de la scène mondiale. L'Europe, c'était plus de 20% du PIB mondial il y a 15 ans. On est en train de s'effondrer en relatif. Voilà, alors encore un chiffre. L'Europe croit pas tellement plus que la France, mais un tout petit peu plus, donc peut-être à 1,25. Les États-Unis sont sur une pente de 2,25 en tendanciel, et la Chine de 3,5. Donc quand vous avez une croissance inférieure à celle des autres, ben vous disparaissez du marché de facto en poids relatif.
Si je discutais avec Jean-Marc Daniel, il dirait que c'est du protectionnisme. Visiblement, ça fonctionne.
C'est pas un vilain mot. C'est pas un vilain mot. Mais quand même, regardons très rapidement le schéma. L'Europe décide qu'on doit passer de la voiture thermique à la voiture électrique. On met en place un dispositif pour soutenir ce passage du thermique à l'électrique et qui va coûter. Pour acheter des voitures produites en Chine qui ne sont pas produites conformément aux règles environnementales qui sont établies en Europe. Et en même temps, on n'accélère pas le processus d'industrialisation. Alors là, puisqu'on parlait tout à l'heure de les faits sont têtus en économie, là on a le cercle incroyablement vicieux. C'est incroyable. Donc qu'à un moment donné, on règle un peu ce dispositif. Par contre, l'enjeu, et Christian l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'on développe l'industrialisation en France et notre capacité à produire en France.
Un mot, Laurent.
Oui, la question est simple. Est-ce que c'est le rôle de l'État français de subventionner l'industrie chinoise?
Oui, justement, c'était pour arrêter d'avoir 4 euros sur 10.
Dès l'instant que vous donnez une sucrète, c'est quand même pour favoriser votre
heure économique. Oui, Laurent, c'est l'industrie chinoise. C'est les travailleurs chinois, parce qu'il y a beaucoup de sociétés françaises qui produisent leurs voitures sur place.
Il y a cet auditeur
qu'on peut comprendre d'un certain point de vue.
Cet auditeur qui s'appelle Den, qui dit « Je vous écoute, j'entends bien ce que dit Stéphane Carcio, mais la réalité, c'est que les gens votent RN ou NFP. Ça veut dire que votre plateau, dit-il, est déconnecté de la vraie vie. » Il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce que nous disons est déconnecté de la vraie vie.
Donc ça veut dire que sur les plateaux,
réel. Ce qu'on a explicité aujourd'hui, c'est la réalité. Bon, et elle va revenir comme un boomerang.
Non, mais je vous donne des réactions que j'ai. Voilà.
Oui, mais on comprend ces réactions.
Voilà, on a fini. Eh bien, merci Patrick Bertrand, Stéphane Carcillo, Christian Saint-Etienne et Laurent Vauquier.
Oui, juste pour les auditeurs.
Christian, il ne veut pas que ça s'arrête.
Non, mais on a offert des tas de propositions réalistes. Putain, on peut bouger dans le bon sens. On n'est pas obligé de bouger dans le mauvais sens.
Espoir réaliste. Voilà. C'est que j'y reviens.
Il s'appelle Lacan. Il me dit, pour une fois, oui, non, quand on vous écoute, c'est pas hors sol. Voilà, donc il y a.
Merci.
Il y a tous les avis.
Il y a la pluralité.
Voilà. Merci à vous quatre. On se retrouve demain à 9h. C'est parti.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.